Suite de la conférence Michel Léris, la traversée du XXe siècle, par Annie Pibarot. Je reprends avec le premier focus, ce premier temps où je souhaite m'attarder sur un aspect particulièrement important de l'œuvre de Michel Léris. Et donc, j'ai choisi en premier le surréalisme et la relation au langage. Donc, j'en ai parlé dans la première partie. Michel Léris a adhéré pendant quelques années au surréalisme. C'était une époque qui était caractérisée par la pratique de l'écriture automatique, les séances d'hypnose collective, hein, qu'on appelait la période des sommeils, également par les scandales et également par la question de du rapprochement avec le Parti communiste. Donc Léris a participé à tout cela, s'est éloigné rapidement, a rompu en 1929, mais cette rupture ne doit pas cacher une adhésion plus profonde qui était la sienne aux valeurs du surréalisme et à la conception de l'écriture qui est associée, donc écriture libérée de la raison et fondée essentiellement sur les images et sur les associations d'idées. L'une des contributions principales de Léris au surréalisme a consisté dans la revue La Révolution surréaliste, qui paraissait donc pendant les années où il a fait partie du groupe. Il a publié un texte intitulé Glossaire, Gicère, Méglose, qui a été d'abord publié sous forme de trois articles dans la revue correspondante et ensuite repris en volume en 1939. Et auquel il a donné une suite de façon tardive en 1985. Alors, que fait Léris dans ce glossaire? Un glossaire, c'est une notion proche de celle de dictionnaire. Un dictionnaire, en général, définit des mots, et un dictionnaire, en général, définit l'idée, hein, à laquelle renvoie le mot. Ce que fait Léris dans le glossaire est tout à fait différent. Il sépare d'une certaine façon ce que la linguistique appelle le signifiant, hein, c'est-à-dire la matière sonore ou visuelle qui constitue le mot, du signifié, l'idée qui est associée, pour ne s'intéresser qu'au seul signifiant, hein, c'est-à-dire qu'au mot pris dans ses sonorités, dans son aspect. Pour que vous compreniez cette idée, donc j'ai cité, c'est dans la diapositive suivante, quelques extraits de ce texte, un choix d'entrée à partir de la lettre A. Alors je vais commenter par exemple la définition qui est ici présente du mot amertume. Donc amertume, donc vous voyez que ça a l'allure d'une définition de dictionnaire, la mer s'abreuve d'écume, je hume la mer, mais ce qui est associé à amertume n'a que peu à voir avec ce qu'est l'amertume, hein, le goût amer, mais procède par rapprochement de sonorité. Donc la mer, si vous remarquez, il y a mer dans amertume, s'abreuve d'écume. Donc, hume est à la fin de amertume. Je hume, second hume, la mer. Vous voyez que ce sont des rapprochements de sonorités qui permettent la rédaction de ces pseudo-définitions. Alors, il y a bien sûr beaucoup d'humour dans la démarche, hein, et beaucoup de poésie. Donc, Léris reste tout à fait dans la lignée du surréalisme, hein, qui mettait le jeu de mots et le jeu sur les signifiants au premier plan. Hein. Une démarche du même genre a été pratiquée par d'autres écrivains du groupe surréaliste, mais Léris est vraiment allé jusqu'au bout de cette logique. Voilà, alors pour expliquer encore. Je vais me référer à la notion de cratylisme. Alors j'explique. Platon, hein, Platon a écrit un dialogue dans lequel il met en scène deux personnes, enfin deux philosophes, Cratyle et Hermogène, qui ne sont pas d'accord. Cratyle pense que les mots et les choses sont reliés par une relation qu'il qualifie de justesse, hein, c'est-à-dire que les mots sont justes pour dire les choses, autrement dit qu'ils ressemblent par leur sonorité à la chose qu'ils désignent. Et Hermogène, à l'inverse, pense que le lien entre les mots et les choses n'est pas un rapport juste, mais un rapport arbitraire décidé par les hommes pour les besoins de la communication. Cette idée d'Hermogène correspond plus ou moins à ce que la linguistique saussurienne, la linguistique donc du XXe siècle, appelle l'arbitraire du signe, hein, c'est-à-dire le mot ne ressemble pas à l'objet ou à l'idée qu'il désigne. Le mot table n'a rien à voir par ses sonorités avec l'objet table. Voilà un principe de la linguistique. Mais ce principe est souvent remis en question, notamment dans la poésie, qui a beaucoup recours à ce qu'on appelle les allitérations, hein, c'est-à-dire l'usage expressif, la répétition expressive de certaines sonorités, ou comme le fait Léris ici, avec son glossaire. Il y a un livre publié en 1976 par le critique littéraire Gérard Genette, qui s'appelle Mimologique, dans lequel Genette examine les situations de langage où parlent des écrivains qui ont remis en question cet arbitraire du signe, ont eu recours au contraire à la motivation, à l'imitation par les sons d'un mot, des idées qu'il désigne. Et donc Gérard Genette consacre un chapitre de ce livre au glossaire de Léris. Et je dois préciser également que ce glossaire a fait l'objet d'une réception assez importante, hein, c'est-à-dire qu'il a vraiment été pris au sérieux, souvent étudié, souvent attiré l'intérêt. Par exemple, dans le domaine des ateliers d'écriture, hein, très souvent des propositions d'écriture s'inspirent du glossaire de Léris. Et le but de Léris, finalement, était de s'approprier le dictionnaire, hein, c'est-à-dire que il oppose l'usage collectif du langage, hein, qui est un usage sur lequel on se met d'accord, hein, non motivé, et l'usage subjectif qui lui fait beaucoup appel à cette rêverie, à cette rêverie à partir des mots. C'est ce qu'il dit plus ou moins dans le texte qui figure sur la diapositive, qui est le texte par lequel Léris, dans l'un des articles de la Révolution surréaliste, présentait son projet. En disséquant les mots que nous aimons, nous découvrons leurs vertus les plus cachées, les ramifications secrètes se propagent à travers tout le langage, canalisées par les associations de sons, de formes, d'idées. Alors le langage se transforme en oracle et nous avons là, si ténu qu'il soit, un fil pour nous guider dans la Babel de notre esprit. Voilà, donc ça c'est une des principales contributions de Léris à la conception surréaliste de l'écriture. Alors il y en a eu deux autres, hein, deux autres contributions donc à l'écriture surréaliste. En 1946, Léris publie Aurora, qui est un roman surréaliste. Ce n'est pas le seul texte qui a recours au récit, hein, que Léris a écrit à l'époque surréaliste. Il y en a deux autres, mais Aurora est le plus connu. Il a été publié seulement en 1946, mais écrit bien avant, hein, pendant la période surréaliste. Alors, roman, c'est un petit peu contradictoire avec l'interdit qui a été formulé par André Breton, qui ne voulait pas qu'on écrive des romans. Et c'est un texte assez court, très déconstruit, dans lequel on retrouve quand même des fragments de récits, quelques personnages, notamment un personnage Aurora, qui est une femme, objet d'une recherche, d'une quête, mais qui subit des métamorphoses fréquentes. C'est un texte dans lequel le merveilleux est très important et où il y a de nombreuses images, de nombreux jeux de mots. Une autre contribution de Léris, donc à l'écriture surréaliste, a été la publication d'un récit de rêve qui porte le très beau titre de Nuit sans nuit et quelques jours sans jour, hein, avec déjà des jeux de mots dans le titre. Donc c'est un recueil de récits de rêve, forme d'écriture qui a été peu pratiquée, mais qui l'a quand même été. Là aussi, beaucoup plus tard, par des écrivains comme Pérec, s'appelle La boutique obscure, par Michel Butor, hein, sur des textes beaucoup plus tard que celui de Léris. Et donc le rêve, bien sûr, se réfère à Freud, hein, à l'idée freudienne de l'importance du rêve comme expression de l'inconscient, et Léris en fait une forme donc d'écriture littéraire. Voilà, et ceci dit, on peut dire que ces récits de rêve relèvent également beaucoup de la poésie, hein, comme les extraits du glossaire dont je viens de parler. Alors, second focus que j'aimerais faire maintenant, hein, second point sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est l'écriture autobiographique. Donc, Léris est connu principalement pour ses autobiographies. Alors, autobiographie, on peut dire qu'il y en a deux principalement. La première, L'âge d'homme, et une en quatre volumes, La règle du jeu, ainsi que des formes d'écriture autobiographique qu'on retrouve dans les textes plus tardifs, donc écrits après La règle du jeu. Alors, quelques mots d'abord de L'âge d'homme. L'âge d'homme, alors, renouvelle déjà, bien qu'écrit en 39, l'écriture autobiographique dans le sens où ce n'est pas une autobiographie canonique, c'est-à-dire il n'y a pas de référence à un ordre chronologique. C'est beaucoup plus un autoportrait. Alors la différence entre l'autobiographie et l'autoportrait, c'est que l'autoportrait procède par catégorie, hein, c'est-à-dire qu'il y a un chapitre, par exemple, sur un thème, hein, je sais pas, les amis, un chapitre sur les maladies, un chapitre sur les femmes aimées, hein, par exemple. Ça a été pratiqué déjà au XVIe siècle, hein, par Cardan. Et par d'autres écrivains au XXe siècle. Et donc L'âge d'homme a plutôt cette disposition d'autoportrait qu'une disposition d'autobiographie. Au centre, il y a la référence à un tableau de Cranard. Alors ce n'est pas vraiment un tableau, c'est plutôt un diptyque, hein, c'est-à-dire deux tableaux qui ont été rapprochés, qui représentent Lucrèce et Judith. Alors Léris dit avoir été interpellé un jour où il cherchait une illustration. Il serait tombé par hasard sur une reproduction de ce tableau. Donc Cranach est un peintre allemand, hein, du XVIe siècle, hein, connu pour ses images de nu. Lucrèce est une héroïne de l'histoire romaine, Judith est une héroïne de l'histoire juive. L'une et l'autre ont en commun d'avoir séduit un chef ennemi, hein, pour dire les choses rapidement, mais avec une issue tout à fait différente, puisque Lucrèce a ensuite tellement eu honte, je crois qu'elle a été victime d'un viol d'ailleurs, hein, c'est pas une séduction mais un viol, et elle a eu tellement honte qu'elle s'est tuée, et Judith à l'inverse a tué par décapitation, donc Holoferne qui l'avait obligée à une relation sexuelle. Et donc ces deux figures représentées par Cranach ont beaucoup troubler Léris au point qu'il est arrivé à l'idée selon laquelle dans sa vie il y a des femmes de deux types, des femmes qui sont des Lucrèces, des femmes soumises qui l'émeuvent beaucoup, et des femmes qui sont des Judith, qui sont au contraire des femmes violentes, castratrices, dominantes. Et le cœur de son autobiographie, enfin de son autoportrait, L'âge d'homme, est constitué par deux chapitres consacrés l'un à des figures féminines lui rappelant des Lucrèces et l'autre à des figures féminines lui rappelant des Judiths. Voilà, ça c'est le cœur du livre, hein, qui est en référence au tableau de Cranach. Mais il y a vers la fin des passages dont l'écriture est plus proche de celle d'un récit. Il y a au début une assez longue entrée en matière qui évoque notamment la découverte de ce tableau et des chapitres tout aussi thématiques consacrés par exemple un à des expériences d'enfance liées à l'opéra, au théâtre, voire au travestissement. Un autre chapitre consacré à des expériences de blessures. L'ensemble de ce récit comporte de nombreuses mentions de mythes dans l'Antiquité. Il est fondé sur une conception de la vie qu'on peut dire tragique et avec un arrière-plan qui est un arrière-plan très clairement freudien, psychanalytique, hein, ou une notion qui vient de la psychanalyse, la peur de la castration joue un rôle important, de même que la notion d'âge d'homme, hein, de maturité sexuelle, prise au premier sens, au sens de la psychanalyse. La sexualité, de façon générale, est importante dans ce livre. Alors, c'est par contre une autobiographie dans le sens, pas dans le sens de la disposition des chapitres, mais dans le sens où il est fondé sur un pacte de sincérité. Je vous ai reproduit dans la diapositive suivante quelques lignes du prière d'insérer, c'est-à-dire du texte de présentation de la première édition. Lyris a écrit, donc l'âge d'homme vient donc se proposer sans que son auteur veuille se prévaloir d'autre chose que d'avoir tenté de parler de lui-même avec le maximum de lucidité et de sincérité. On peut dire que Lyris va jusqu'au bout de ce qui est normalement une demande vis-à-vis d'un auteur d'autobiographie, qui est de ne pas travestir, hein, et il a résumé cela par une phrase, une métaphore qui est demeurée célèbre, qui est introduire ne fût-ce que l'ombre d'une corne de taureau dans une œuvre littéraire. Donc, Lyris, je l'ai dit rapidement au début, était très intéressé, et ça joue un rôle également dans certains livres par l'art de la tauromachie, dont cette image lui vient introduire ne fût-ce que l'ombre d'une corne de taureau, c'est-à-dire introduire un danger, un risque. Ce risque, selon lui, est celui d'être mal jugé par les personnes qui vont le lire, hein. Autrement dit, d'avouer avec un maximum de lucidité et de sincérité, y compris des actes répréhensibles ou des actes qui font qu'on va mal le juger. Alors, cette première autobiographie a été étonnamment suivie par une reprise du projet de parler de soi dans les trois volumes dont vous avez les titres, si vous revenez en arrière vers la diapositive précédente. Donc, le titre global est La règle du jeu et chaque volume a un titre séparé. Le point de départ de Bifur est ce que Léris appelle des faits de langue, hein, c'est-à-dire il a dit clairement que dans la seconde autobiographie, il s'éloigne de la conception tragique de la vie, il s'éloigne également de la mise au premier plan de la sexualité, et ce qu'il veut mettre au contraire au premier plan dans Bifur, c'est des faits de langue. Alors on retrouve un petit peu la même démarche que dans le glossaire, c'est-à-dire que l'usage subjectif de la langue est important. Bifur commence par un texte relativement connu, dans lequel Lyris raconte un événement qui s'est passé lorsqu'il était enfant. Donc il jouait avec des soldats de plomb. Un soldat de plomb est tombé de la table par terre, ne s'est pas cassé. Et l'enfant qu'il était s'est écrié heureusement, hein, pas heureusement, mais heureusement. Et un adulte présent l'a corrigé, lui a dit on ne dit pas heureusement, mais heureusement. Et cela l'a empli d'un grand trouble. trouble sur lequel il revient plus tard, donc, et qu'il analyse et qui permet donc à l'auteur de s'attarder sur le fait qu'il y a l'usage subjectif de la langue qui fait qu'un enfant dit heureusement, mais qu'il y a les conventions sociales qui font qu'en société on dit heureusement. Et cet usage subjectif est au contraire peut servir de fil conducteur dans une autobiographie pour accéder à la personne, à la subjectivité de l'enfant ou de l'adulte dont il est question dans l'autobiographie. Voilà, et ça, c'est ce qu'il fait dans Bifur, où il énumère beaucoup notamment au début, hein, des erreurs de compréhension de certains mots. Par exemple, quand il était enfant, il entendait autour de lui dire petite table et il répétait te table. Et voilà, et c'est ces erreurs d'interprétation de langage par un enfant qui constituent le premier fil du livre Bifur. Alors, Bifur, c'est un terme proche de bifurcation, hein, bifurcation. Et la bifurcation, selon pensée ici par Léris, cette sorte d'instant de sidération où l'imaginaire part dans une certaine direction et que Léris essaie de suivre. Voilà, c'est ce qu'il fait dans les deux premiers volumes. Dans le second volume intervient beaucoup le thème de la mort. Et dans le troisième, Fibrille. Alors, Fibrille est plus ou moins en deux parties, enfin, pas en deux parties formellement, mais par le sens. C'est-à-dire qu'au début, il est beaucoup question de la tentative de suicide, enfin réelle, hein, faite sur lui-même par le narrateur en 1957. Et c'est une tentative de suicide très dure, hein, par absorption massive de médicaments, et des médicaments beaucoup plus lourds que tout ce qu'on utilise aujourd'hui, hein, dans les années 50, et des barbituriques, hein, je crois. Donc Léris est resté longtemps dans le coma, n'a pu respirer que parce qu'on lui avait fait une trachéotomie, hein, et a fini par revenir à la vie. Donc de cette expérience, il a tiré un recueil de poèmes qui s'appelle Vivante cendre innommée, et un récit qui figure au début de Fibrille. Voilà, et à un moment, ce récit s'interrompt et le narrateur devient conscient du fait que cette règle du jeu qui donne son titre à l'ensemble des quatre volumes de l'autobiographie, en fait, n'existe pas, qu'il est impossible de tout nouer, de tout réunir, de tout mettre ensemble. C'est-à-dire qu'une vie est beaucoup plus sous le signe de la discontinuité, du non-sens, de la fragmentation. Que du sens, que de l'union, de la cohésion. Et cela donne lieu à une troisième forme d'écriture autobiographique, je dirais, qui est celle de Frêle Bruit, donc le volume suivant, publié en 1976, qui est un livre à la fois hétérogène, dans lequel il n'y a pas que des fragments autobiographiques, il y a également des fragments de poèmes, des récits de rêves, des courts textes d'écriture théorique, des passages quelquefois où le narrateur ne se désigne pas avec je à la première personne, mais avec il à la troisième personne. Voilà, et tout cela constitue un ensemble hétérogène et fragmenté dans lequel domine le lâcher-prise. Hein, c'est-à-dire, c'est comme si le narrateur avait une posture beaucoup plus modeste, n'est pas celui qui sait, n'est pas celui qui est porteur d'un savoir ou d'une aspiration à l'unité, mais plutôt de l'ordre de la déconstruction, de l'ordre du patchwork. Voilà. Ce mode d'écriture sera en fragments, hein, sera largement utilisé à la fin du XXe siècle par d'autres auteurs de textes qui, de façon large et souple, se rattachent au genre autobiographique. Voilà, et troisième focus sur lequel je voulais m'attarder, c'est la question de l'iris et la peinture. Alors, si j'en parle, bon, c'est à la fois lié à l'actualité, bien sûr, à ces expositions récentes. Le lien avec la peinture pour l'iris n'est pas un lien anecdotique comme on pourrait croire, bien qu'il soit en relation avec le fait que sa femme dirigeait une galerie de peinture. Hein. C'est un lien beaucoup, beaucoup plus profond en relation avec un questionnement sur l'écriture littéraire. C'est-à-dire quand Léris s'intéresse à la peinture, c'est la littérature également qu'il questionne, et qu'il questionne d'une façon comparable au moment où dans le glossaire, il défait les mots, il désunit le signe linguistique. S'intéresser à la peinture, c'est aussi entrer dans ce qui est avant le langage, hein, puisque dans l'histoire dans l'enfance, hein, l'enfant voit avant de parler, et il y a dans l'image quelque chose de plus primitif peut-être que dans les mots, mais qui parcourt le langage, hein, et qui est également dans le questionnement surréaliste autour de l'image poétique. Alors je ne sais pas si je l'explique de façon très claire ici, mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un lien, hein, que tout se tient. Donc Léris a été d'abord ami, biographiquement ami avec beaucoup de peintres, enfin beaucoup, un certain nombre de peintres, mais qui sont peut-être parmi les plus grands, les plus connus du XXe siècle. Léris est resté attaché dans ses goûts en matière de peinture à la figuration, et cela même à une époque où l'art non figuratif, où les formes d'art conceptuel étaient au premier plan, donc il est resté attaché à travers trois courants, le cubisme, le surréalisme et le primitivisme. Alors les peintres dont il a été ami sont tous des peintres sur lesquels il a écrit, hein. Il a écrit des articles publiés dans des revues, dans la revue Documents, il a beaucoup écrit sur la peinture. Il a également beaucoup préfacé des catalogues, mis au point des catalogues, voilà, sur tous ces écrivains, tous ces peintres, pardon, avec lesquels il a eu des liens d'amitié, et il a joué un rôle souvent très important, notamment pour Francis Bacon, pour leur connaissance en France. Donc Masson, j'ai dit tout à l'heure, hein, qu'il a été qualifié par Léris de mentor, et Léris et lui se retrouvaient autour de la conception tragique de la vie, de la tauromachie. C'est comme Miro, des amitiés qui datent des années 20, hein, qui sont liées aussi au surréalisme. Parmi les amis de Léris, il y a eu Giacometti. Giacometti a fait des peintures de Léris pendant la période où il était hospitalisé suite à sa tentative de suicide, et qui ont servi d'illustration pour le recueil de poèmes dont je parlais tout à l'heure, Vivantes cendres innommées. Picasso a été un autre ami de Léris, donc je n'insiste pas sur l'importance, le côté central de Picasso pour la peinture du XXe siècle. Et comme Léris, Picasso a été intéressé et influencé dans son travail par l'art africain, mais déjà par le cubisme bien avant et par le surréalisme. Un autre ami de Léris, c'est Wilfredo Lam, hein, peintre cubain, donc lié au primitivisme. Et Francis Bacon, donc, qui a fait l'objet d'une grande exposition à date très récente au musée Pompidou, a été un ami proche de Léris, mais c'est une rencontre tardive, hein. C'est un ami de la dernière partie de la vie, un ami plus jeune que lui, et une relation qui était en quelque sorte en miroir, c'est-à-dire que Léris a beaucoup écrit sur Bacon, hein, de nombreux articles, de nombreuses présentations de catalogues, et en retour, Bacon a réalisé deux portraits, notamment d'autres dessins, mais surtout deux portraits de Michel Léris, qui sont parmi ses tableaux les plus connus. Et enfin, il convient de mentionner que l'art pour l'iris a non seulement une face qui est l'art occidental, mais l'iris s'est beaucoup intéressé à l'art africain et co-auteur notamment du livre Afrique noire, la création plastique, qui est consacré donc à cette représentation, à ces images artistiques et sculptures africaines qui ont eu un rôle très, très important pour tout l'art du XXe siècle. J'aimerais conclure cette conférence en disant que l'iris se ressentait comme une personne complexe et divisée. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie facile, hein, qui était plutôt dans le... justement dans la complexité, dans la gêne quelquefois, voire dans la honte ou dans la haine de soi. Et qu'on est étonné pour les personnes qui l'ont connu, hein, décrivait un homme extrêmement timide. Et au contraire, il y a eu dans son parcours d'écrivain, me semble-t-il, d'abord une grande pertinence, c'est-à-dire les amis qu'il a eus sont parmi les plus grands créateurs du XXe siècle, une sorte d'extrême sensibilité vis-à-vis de tout ce qui se passait d'important en peinture et en littérature, et peut-être en musique, mais bon, on n'a pas le temps de parler de tout, au XXe siècle. Et qui à la fois cette intuition très forte sur tout ce qui était intéressant, novateur, mais il y a une grande cohérence du questionnement. C'est-à-dire si je réfléchis aux trois focus que je vous ai présentés, la conception surréaliste du langage, le glossaire, l'écriture autobiographique, l'écriture sur la peinture, tout d'une certaine façon se rejoint autour d'un questionnement sur ce qu'on peut appeler l'en-deçà du langage, l'image, le fait de dénouer le lien entre le signifiant et le signifié. Voilà, tout cela, d'une certaine façon, tout se tient. Et les deux parties de sa vie, hein, puisque l'Iris était à la fois écrivain et ethnologue, ce sont ses deux identités principales, se tiennent également. Donc il a écrit dans un texte qui était un texte de circonstance pour une candidature professionnelle au CNRS. Il a écrit qu'il s'agit dans sa vie de deux activités conjuguées. La littérature sous la forme de la poésie et de l'autobiographie, et l'écriture théorique, ethnographique, qui poursuivait le même but, et ce but est accroître notre connaissance de l'homme, tant par la voie subjective de l'introspection, hein, et de l'expérience poétique, hein, ça c'est la littérature, que par la voie moins personnelle de l'étude ethnologique. Donc les deux ont un but commun qui est donc accroître notre connaissance de l'homme. Voilà, c'est les risques que je citais. Je vous remercie pour votre écoute, hein. Donc souvenez-vous que en bas de la première diapositive est indiquée mon adresse mail et que vous pouvez me contacter pour toute question.